Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. Julie et Théophile se sont rencontrés via les scènes slam, qu'ils ont tous les deux foulées. Mais que se passe-t-il quand le lockdown ferme les salles ? Quand la rencontre physique n'est plus possible ? Il arrive une histoire d'amour, par écran et mots interposés. Cette expérience personnelle constitue la base du roman poétique qu'ils ont écrit à quatre mains durant cette drôle d'année 2020. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a réuni deux plumes débordantes de créativité autour d'un roman stimulant, sensuel et ponctué d'oralité. Tu veux encore aimer ? Tu veux encore rêver ? Alors écoute-les ! Bonjour Julie.
Bonjour Alice.
Bonjour Théophile.
Bonjour.
Bienvenue dans Les mots qui délivrent. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette chambre littéraire, pour vous interviewer à l'occasion de la sortie récente durant l'été de Renaissance. J'ai plein de questions à vous poser et surtout, je voulais d'abord le dire aux auditeurs, c'est une première, je reçois deux auteurs en même temps, et je reçois donc deux plumes qui ont coécrit un livre. Mais quel livre ? Là, je vous laisse la parole. Comment vous le décrivez ? Comment vous présentez ce bébé littéraire au monde, avec vos propres mots ?
Mais Renaissance, c'est un roman poétique. Donc c'est un objet un peu hybride, romanesque, épistolaire, et également un recueil de poésie.
D'accord. Théophile, tu penses qu'il y a quelque chose à ajouter ? Ou toi-même, comment tu as envie de le présenter, cet objet ?
C'est un livre qui peut... Enfin, c'est deux livres en un. C'est-à-dire que c'est un roman de facture classique qui narre un peu les aventures de deux personnages. Et cette aventure est couplée à un recueil poétique écrit par les deux personnages. Donc ça peut se lire à la fois comme de la poésie pure et aussi comme un roman.
Voilà. Est-ce que je peux me permettre, ça c'est mon interprétation et ma projection de lectrice, est-ce que je peux me permettre de parler aussi de romans épistolaires ? Vous accueillez ce format-là aussi et ça vous parle ? C'était conscient
Oui, carrément.
Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Ce n'est que ça en fait, parce qu'ici dans le roman, le lecteur n'a accès qu'aux échanges entre les deux protagonistes. Et au début, comme ils ne se parlent que justement par message, eh bien, on a le contenu de leur pensée finalement. Ouais. Mais au fur et à mesure où ils vont se rencontrer dans la vraie vie, là le lecteur va devoir faire un petit travail d'imagination pour savoir ce qui se passe dans la vraie vie, parce qu'il ne continue à avoir accès qu'aux échanges entre les deux personnes, mais par Messenger.
Ouais. Oui, par Messenger. Donc là, c'est roman épistolaire 2.0.
Exactement.
Post-Covid, hein, ou, enfin, en tout cas durant le Covid et la pandémie. Est-ce que c'était un choix qui est venu assez rapidement de coécrire cette œuvre sous ce format épistolaire ? C'était très conscient ? C'est venu de manière inductive ?
Le projet a été lancé par Julie au départ. Elle m'a suggéré l'idée. On y a réfléchi. Et donc, assez vite, on était parti sur l'idée d'un échange entre deux personnages. Et donc comme Julie le disait, au début, il y a vraiment des échanges qui sont très longs, même si ça se fait par l'intermédiaire informatique. On a des formats longs qui sont des longues lettres écrites, et par la suite, au fur et à mesure de la naissance du sentiment amoureux entre les deux personnages, on va avoir accès à des formes plus courtes, plus dynamiques, plus rythmées.
Tout à fait. On voit vraiment qu'il y a différentes parties. Alors, c'est un roman qui est assez dense, parce qu'en plus, on ajoute le slam, les poèmes, etc. Mais en fait, il est assez structuré. Et c'est vrai qu'on retrouve différents actes dans ce récit. Est-ce que On peut aussi parler, je vais vraiment aller un peu plus loin, d'autofiction. Est-ce que vous vous engagez aussi sur cette idée? Et puis on peut peut-être dévoiler avec votre perspective et la mienne ce qu'on englobe dans autofiction. Est-ce que c'est aussi un format que vous validez par rapport à Renaissance?
Oui. On est vraiment parti sur de l'autofiction. Alors les gens qui nous connaissent dans la vraie vie reconnaissent forcément des parties de notre vie et de notre histoire dans les lignes de Renaissance. Mais on s'en éloigne avec une idée narrative et une histoire qui n'est pas la nôtre. Mais c'est vrai qu'effectivement, on est en autofiction. On peut le dire carrément qu'on est en autofiction et de manière un peu romancée de notre propre rencontre, parce que finalement, c'était aussi ça l'idée que j'avais suggérée à Théophile, c'était de pouvoir capturer la naissance d'un sentiment amoureux et de voir comment finalement on tombe amoureux de l'autre. Surtout ici, sans l'image, sans le contact, juste avec les mots, avec les idées de l'autre finalement. Donc c'était assez intéressant de pouvoir vraiment capturer ce moment-là très particulier d'une histoire entre deux personnes.
C'est ça. Et l'autofiction, je sais que c'est un pseudonyme sous lequel tu écris. C'est un choix aussi de protéger certaines éventualités de ton intime, Théophile, par rapport au choix du nom qui apparaît sur la couverture.
Oui, bien entendu, mais j'insiste moi sur le côté fictionnel quand même de la chose, hein. Parce que bon, si on avait voulu écrire une biographie, ce serait assez ennuyeux, je pense. Donc c'était quand même de creuser dans les aspects fictionnels. C'est en allant gratter dans ces interstices que finalement on trouve une matière assez intéressante, je pense.
Tout à fait. Les personnages nous ressemblent un peu, voire beaucoup, mais ils sont plus ou moins que nous.
Oui, plus ou moins, et ils ont leur vie. On peut imaginer qu'ils ont leur propre vie qui se détache progressivement de la vôtre. En tout cas, pour l'avoir lu, effectivement, il y a aussi ce jeu de fiction dans lequel le lecteur tombe. C'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je vais pas vous emmener dans ce terrain-là parce que c'est la fameuse question qu'on pose à chaque fois. Je pense qu'on peut faire encore plus honneur au récit en allant voir d'autres choses dedans. Mais revenons à l'histoire. Revenons à l'histoire avant l'histoire, votre histoire, Julie et Théophile. Quel écrivain naît en vous et à quel moment? Quelle écrivaine ou auteur, autrice? D'abord, quels sont les termes que vous adoubez, quoi? Donc Julie, comment ça naît l'écriture chez toi pour commencer?
Donc moi, je me considère comme une autrice et une poétesse. Et j'écris depuis super longtemps. J'adore le format écrit. Je dis toujours, j'écris plus à mes amis que je ne leur téléphone ou que je leur parle.
C'est souvent signe, ça.
Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et depuis, je dirais, 5 ans environ, depuis que je suis passée au slam, depuis que j'ai commencé, que j'ai découvert et que je suis passée au slam, là, l'écriture prend une place de plus en plus importante dans ma vie jusqu'à être une partie de ma vie professionnelle présent, et donc j'espère que ça prendra de plus en plus de place, évidemment, mais l'écriture sous différentes formes, l'écriture poétique, l'écriture romanesque, l'écriture en copywriting pour des entreprises, l'écriture, voilà, ça augmente, et j'en suis très heureuse, et en formation aussi, donc voilà.
Super, oui, il y a d'autres projets qui sont nés avant, j'ai cru comprendre récemment qu'il y a d'autres projets déjà en cours, donc... Ça fait bel et bien partie de ta vie maintenant. Tu te présentes comme entrepreneur-artiste, c'est bien ça? J'adore cette combinaison.
Exactement.
Tu as choisi tes mots pour te tailler aussi un costume digne de qui tu es. Tu vois comme ça?
En fait, ça partait d'un peu d'une boutade avec ma sœur qui est artiste-entrepreneur. Voilà. Et donc, on essaye de faire un peu le yin et le yang en disant que voilà, moi, je ne vis pas encore 100% de mon art. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je me considère comme entrepreneur-artiste. L'artistique prend la progressivement plus de place, alors qu'elle, c'est l'inverse. Mais on est tous à des stades un peu différents, et Théophile, lui aussi, est un autre stade encore au niveau de la place qu'a l'écriture dans sa vie.
Et justement, du coup, tu me fais une belle transition, Julie, merci. On va revenir vers Théophile. Comment ça naît cette... Je pense, parce que ça transpire vraiment dans le récit aussi, cet amour des mots, cet amour des jeux de mots. Et puis ensuite, je pense que toi aussi, tu es passé par la scène slam. Et puis l'écriture, comment ça apparaît dans ta vie? À quel moment éventuellement aussi?
Mais c'est relativement récent. Moi, j'ai commencé à... je fais de la programmation informatique. Donc c'est de la manipulation de symboles, mais en général, c'est pas la langue française.
Un autre langage.
Un autre langage, oui. Et donc, je crois que j'ai écrit mon premier poème en 2017, donc c'est pas très longtemps. Et les scènes slam, c'est encore plus récent, ça doit être 2000, 2000, 19, donc oui, je suis un bébé. Et, mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il y avait une frustration en fait d'être toujours dans ce code informatique en permanence, et donc dans les mathématiques et dans les codes informatiques. Donc de retourner finalement à la langue française, c'était quelque chose d'assez intéressant pour moi.
Mais franchement, ce qui est merveilleux, c'est voir comment on combine un peu le côté plus carré, analytique, séquentiel. Mon mari est programmeur aussi, donc ça me va. Et puis voilà, c'est une autre forme de langue. Et puis peut-être retourner à des amours qui peut-être étaient en toi depuis longtemps. Tu sens qu'enfant, plus jeune, c'est aussi quelque chose qui t'habitait. C'est vraiment, vraiment une découverte totale, une révélation sur le tard.
Non, c'est pas vraiment une révélation, mais par exemple, j'écrivais pas quand j'étais enfant ou adolescent. Les lectures imposées dans les cours de français en humanité, c'était la croix et la bannière. Enfin,
ouais,
mais pourtant, après, j'ai fait l'autodidacte. Je suis un rat de bibliothèque depuis le jeune âge adulte. Et oui, donc c'est pas une totale nouveauté, mais je cherche encore d'ailleurs le pourquoi du comment, ça m'est tombé dessus il y a 3-4 ans.
Ah oui, d'accord, donc tu cherches vraiment la genèse, l'explication.
Ouais.
Ce que j'entends dans vos deux discours, c'est en fait, il y a 5 ans, le slam, j'entends l'amour des mots depuis longtemps, mais il y a 5 ans, c'est une date que je garde, 2017, 2019, donc quelque part, c'est une passion, un amour récent avec l'écriture, dans l'acte d'écrire, de faire, quoi, dans la pragmatique des mots. Moi, je sais que il y a plein de plumes qui viennent aux activités du mot qui délivre, d'autres qui écoutent. C'est possible aussi de se lancer, je vais peut-être pas dévoiler vos âges, vous faites si vous le souhaitez, mais
la quarantaine.
C'est possible de se lancer, entre guillemets, sur le tard. On parle de late bloomer pour certaines choses, d'éclosion tardive. Est-ce que c'est un message que vous pouvez envoyer à des plumes qui ont la trentaine, la quarantaine? On peut vraiment y aller à n'importe quel âge.
Et c'est pour tout, c'est parce que là on parle d'écriture, dans le roman c'est le sentiment amoureux, ça peut être l'entrepreneuriat, on peut se lancer sur le tard. Il y a des choses où on est contraint par son physique et son âge évidemment, mais il y a un tas de choses dans lesquelles on peut se lancer, quel que soit l'âge, à partir du moment où on est passionné, amoureux, qu'on y consacre, qu'on s'offre la possibilité de se donner du temps pour développer cette activité-là. On peut la commencer à n'importe quel âge. Et dans le slam, c'est très caractéristique,
c'est vrai,
du fait que c'est intergénérationnel. Il y a des très jeunes, il y a des beaucoup plus âgés. Je pense que la dernière scène, il y avait des gens passé 60 ans sur scène.
Waouh, génial. Donc, c'est un message fort qui est envoyé.
Donc c'est vraiment, que ce soit l'écriture ou le fait de délivrer ces textes, on peut le faire vraiment à tout âge.
J'entends passion, j'entends amour, aussi comme tu le dis Julie, y aller, quoi, s'offrir cette possibilité. Moi je dis toujours se donner des permissions, ça vient de soi alors. Et dans votre cas, comment se fait la rencontre avant Renaissance, avant l'écriture? Comment se fait cette rencontre d'auteur à auteur? Quel est le petit déclic, la petite étincelle qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve et on entame un vrai projet d'écriture à quatre mains, comme vous le dites?
Je pense que c'est venu, enfin tu pourras compléter après, mais ça vient des scènes slam. En fait, une scène slam, c'est quelqu'un qui vient, qui prend la parole pendant 3 minutes. Donc c'est relativement court, mais c'est pas de l'improvisation. La plupart des gens écrivent leur texte et passent beaucoup de temps à fignoler, à préparer un texte très précis. Et donc en 3 minutes, quand un auditeur entend ça pour la première fois, ça peut cogner, ça peut frapper, mais toutes les nuances, on ne les perçoit pas très bien. Donc l'idée de pouvoir prendre contact avec la personne par la suite et lui dire, tiens, ton texte, ça m'a donné des frissons, mais j'aimerais bien le lire plus attentivement. Donc voilà, on fait les connexions comme ça, on sent qu'il y a quelque chose qui naît, et puis on lit le texte de l'autre plus attentivement, et puis on aime, on a envie d'en lire un deuxième, et ainsi de suite.
Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Julie, par rapport à ça?
Oui, mais moi, du coup, je dévoile un peu une partie du mystère, mais pour le coup, la façon dont Marie rencontre Tristan, c'est vraiment comme ça, finalement,
ça,
que j'ai découvert Théophile, c'est-à-dire que je l'ai vu sur une scène slam, je suis vraiment tombée amoureuse de son rythme et du contenu de son texte.
Ouais.
Lui ne m'a pas calculé une seule seconde.
Des petits détails supplémentaires qu'on ne trouvera pas dans le livre.
Exactement. mais effectivement, et du coup, classiquement, on s'ajoute sur les réseaux sociaux, on se suit un peu comme ça.
Oui, c'est souvent comme ça.
C'est pouce bleu. puis ses messages, puis c'est la rencontre et l'intérêt réel qui naît, avec cette particularité que c'est un intérêt qui est vraiment basé sur ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Et donc ça, c'est... en tout cas, en ce qui me concerne, c'était la première fois que ça se passait comme ça dans ma vie, que quelqu'un s'intéresse vraiment à qui je suis de l'intérieur, et pas pour un parcours, pas pour qui on est, pas pour un physique. Et, et ça, c'est lié avec l'écriture et la découverte épistolaire.
Vraiment. C'est vrai que l'écriture permet ce temps, ce choix des mots, ces nuances, et aussi la façon dont on se présente à l'autre. Et je ne sais pas si vous partagez ça, mais d'apporter sa propre vérité à l'autre, et en espérant qu'il la reçoive. En l'occurrence, que ce soit votre parcours... d'auteur ensemble pour vous lancer dans un projet à quatre mains, ou cette rencontre qu'on a évoquée entre Marie, alors c'est Christ, c'est Tristan, on ne sait pas bien, mais en tout cas il y a son pseudonyme, c'est son blaze, hein, c'est ça, de slam, et puis progressivement c'est son prénom qui se dévoile à Marie, mais eux aussi il y a vraiment ce côté rencontre, besoin d'aller chercher chez l'autre quelque chose de plus, encore plus authentique que l'immédiateté du slam, en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçu dans le livre. Déjà là on peut peut-être deviner qu'il y a une chose peut-être réelle alors qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres passages du roman. Maintenant je me posais la question, comment on se met réellement dans l'écriture, parce que tout le monde parle d'écriture, beaucoup de gens veulent écrire ou essayent d'écrire, en l'occurrence il faut s'y mettre, il faut y aller, déjà tout seul c'est pas facile, et à deux comment on fait quoi pour là, bon bah il faut se retrousser les manches, on y va. En l'occurrence, j'entends une passion, donc je peux imaginer que ça vient assez facilement, mais peut-être que je me trompe. Comment, dans le concret, je suis dans l'acte d'écrire pour créer quelque chose, un objet fini, in fine ?
Ici, je vais répondre en deux temps, en premier lieu par rapport au roman Renaissance, qui est donc un échange épistolaire. Disons qu'on avait déjà du matériel, avait notre propre matériel de correspondance, et puis on l'a vu en quelque sorte, on l'a visualisé, on s'est dit bah tiens c'est un matériel, on pourrait en faire quelque chose, et de là on a tiré quelques bricoles, on a élagué beaucoup énormément, et voilà c'est le point de départ, donc on part pas de rien, et puis de là on a fait des échanges, on a opéré en résidence d'écriture, donc on s'est octroyé du temps spécifique pour ce projet-là. Mais dans un deuxième point que je voulais mentionner, c'est que de manière générale, moi j'écris depuis finalement très peu de temps, mais j'écris tous les jours. Et donc même si c'est uniquement 5 minutes, même si c'est quelque chose qui filera tout droit à la poubelle le lendemain, voilà, c'est une forme d'entraînement. C'est comme de faire ses gammes au piano, comme d'aller courir une demi-heure tous les jours. Enfin voilà, c'est vraiment un entraînement. Et au début, ça paraît... difficile à mettre en place, inutile, de peu de valeur, mais en fait, sur le relativement court terme, on sent déjà que c'est quelque chose qui peut payer par la suite.
D'accord, oui.
Là, c'était facilité par le fait qu'il y avait l'objectif de l'objet, de délivrer quelque chose.
Ça, délivrer quelque chose,
Mais de manière générale, pour les personnes justement qui se posent la question de comment est-ce qu'on se met en écriture, soit, comme tu l'as dit, on se met à sa table et il faut y aller. Il faut y aller et il faut que ça sorte. Et quand on est inspiré par l'actualité, par quelque chose qu'on a au fond de soi, par une lecture inspirante, c'est assez simple. Mais sinon,
ça déborde en fait.
Ça déborde, mais sinon on se fait aider tout simplement, que ce soit en atelier, que ce soit en stage, que ce soit en accompagnement. Il y a des gens dans ce sale métier.
Bien sûr.
Il y a des gens à faire sortir ce qui n'arrive pas à sortir.
Les accoucheurs, projets.
Exactement. Donc c'est important de savoir que, comme le piano, soit on a une espèce d'oreille absolue, on trouve une méthode qui nous convient et on se lance comme ça parce qu'on adore le piano, soit on prend des cours tout simplement et on s'oblige tous les mercredis à 14h à aller voir son prof.
Discipline, rigueur.
Exactement. Donc il y a plusieurs façons d'y arriver. Et ici, c'est vrai que c'était facilité par le fait que c'était une période de confinement, donc on avait un peu plus, moi beaucoup plus de temps, et Théophile un peu plus de temps. Et qu'on était ensemble également, donc on pouvait se libérer du temps. C'était vraiment l'idée, c'est de se libérer, que ça devienne un loisir, mais avec une finalité.
Plaisir, mais comme tu dis, il y a l'objectif aussi de quelque chose d'abouti, un objet concret qu'on va délivrer. J'entends que tu recontextualises, et c'est important aussi, ce moment d'écriture. Il a commencé du coup en plein lockdown 2020, si je peux situer un peu la matière dans laquelle vous avez puisé dès le départ. Donc vous aviez du temps, un peu plus de temps. le rêve, entre guillemets. Je peux imaginer Julie, je peux imaginer Théophile aussi, le côté télétravail, etc. C'est pas non plus du temps rêvé, souhaité nécessairement, parce qu'il y a d'autres à côté négatifs. Mais toute plume, est-ce que c'est pas le rêve d'avoir aussi un espace ouvert pour y aller? Je me dis, waouh,
moi, ça a été une période bénie.
D'accord, oui.
Mais ça peut, ça peut devenir aussi vertigineux, parce que si on a énormément de temps et que justement on n'a pas le début d'un commencement, ça peut, la page blanche devient gigantesque.
C'est intéressant comme point de vue aussi. Trop de temps, sans repère, sans routine, sans rituel.
Ça peut faire peur.
Ça m'est déjà arrivé dans un contexte autre que celui de l'écriture, mais d'avoir plein de temps finalement. On passe des journées à se tourner les pouces et à se dire, mais tiens, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, mais j'arrive pas, et que fais-je? Enfin voilà, donc on est. Mais dans notre cas précis, c'est vrai que c'était une chance. On a pu, comme on avait cette idée de projet, qu'on avait du matériel dès le départ, on a pu empiler les choses et voilà.
Du coup, je reviens vers la casquette entrepreneur. Est-ce qu'on ne doit pas aussi avoir une forme de créativité dans ce moment, dans le temps imparti, dans le moment, timing dans lequel on écrit, quoi? Est-ce qu'on ne doit pas simplement faire avec ce qui est? Alors oui, il y a le côté rigueur, discipline, écrire tous les jours éventuellement, muscler cet organe créatif. Mais est-ce que parfois, ce n'est pas aussi rebondir, saisir le contexte qui n'était peut-être pas souhaité? Est-ce que tu vois une démarche entrepreneuriale ou créative, toi aussi, Julie, dans cet effort littéraire?
Ah ben ici carrément, parce qu'on l'a auto-édité en plus, on a vraiment eu toutes les casquettes du début à la fin. Et en même temps, c'était un projet commun, donc je ne sais pas si on peut le dire inconsciemment ou carrément consciemment, on ne pouvait pas abandonner. Parce qu'à partir du moment, quand on écrit tout seul, des fois on est démotivé, on se dit « j'achèverai une autre fois, c'est pas grave ».
Entre soi et soi, quoi.
Voilà, exactement. Là, comme il y a un partenaire, comme dans une entreprise, finalement, dans un projet professionnel, à partir du moment où d'autres partenaires sont engagés, l'abandon n'est plus vraiment permis, possible, on est motivé par l'autre, on est obligé. Je veux dire, comme ici, ce sont des dialogues, quand il y en a un qui avance, l'autre doit bien répondre.
Oui, c'est une belle danse.
Donc c'était un peu. C'est pour ça qu'on a été si vite aussi.
Oui, oui, c'est surprenant.
Assez rapide. Mais la démarche entrepreneuriale, effectivement, elle est là parce qu'il y a un espèce de plan auquel il va falloir quand même essayer de coller un maximum, même si on sait bien que le plan, c'est la théorie, puis après, en pratique, il y a d'autres choses. Mais il faut un objectif, il faut se donner les moyens d'y arriver. À chacun à son échelle, chacun à son échelle. Et après, il faut toute une série aussi de techniques quand on auto-édite, surtout, de savoir transformer, faire de la mise en page, savoir faire une couverture, savoir communiquer avec la presse.
Respecter les codes.
Exactement. Il y a toute une série de choses qu'il faut faire.
Et Théophile, tu t'inscrivais aussi dans ce choix d'auto-édition et dans cette démarche? C'est quelque chose qui est apparu aussi comme évident, ou...
Non, pas du tout.
Il faut choisir ensemble, à deux. Donc il y a deux fois le moment de décider avant de se mettre d'accord. Je t'ai interrompu, pardon, mais voilà, j'avais envie de dire ton point de vue.
Non, moi, c'était pas du tout évident l'auto-édition. Moi, naïvement, je pense qu'un livre n'a un certain intérêt que s'il passe par une maison d'édition classique, etc. Donc, moi, j'avais cette forme de naïveté. Donc c'est Julie qui m'a convaincu. Elle a été raisonnable, je pense, parce qu'on est vraiment arrivé en plus dans le mauvais moment où l'édition débordait de soumissions en tout genre. Nous, on présente quelque chose qui est hybride, avec deux auteurs qui sont des primo-romanciers. Donc, on était perdants d'avance.
Quitte à être punk, autant être punk.
Oui, mais par ailleurs, l'optique do it yourself, j'aime bien. Et voilà, j'ai été convaincu, et à force de le faire, là, je me rends compte que ça présente un certain nombre d'avantages. Par rapport à ce que vous disiez en termes de décision, effectivement, l'écriture à quatre mains, c'est de la négociation à la fois, est-ce qu'on auto-édite ou pas, mais sur l'intrigue, sur est-ce qu'on fait trois parties, est-ce qu'on sort. Est-ce qu'on sort un troisième personnage, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a de la négociation permanente. Bon, ici ça s'est très bien passé, mais ça peut être aussi particulièrement périlleux.
Mais on a eu effectivement des zones de friction quant à l'auto-édition, parce que Théophile, parce que c'est un grand consommateur de littérature, de livres en tout genre, bah, l'éditeur, c'était le passage obligé pour que ça fasse sérieux. Voilà,
mais c'est bien vous l'ameniez, parce que je pense que beaucoup de personnes sont encore dans cet esprit-là, pour plein de raisons. Oui.
Mais oui, que ce soit des bonnes raisons ou des raisons plus... je ne sais pas comment on peut définir ça, pas d'ego, mais en tout cas de...
Il y a aussi un champ symbolique très fort, quoi, le champ symbolique culturel qui gravite autour de l'édition, de l'éditeur est encore très fort. Mais j'aime bien ce que tu viens d'éditer, pardon, je t'ai interrompu.
Oui,
on va rebondir après. Le Covid a encore bousculé tous les codes. La troisième voie du livre est en train de se dessiner, je pense. C'était déjà un petit peu compliqué avant, même 15-20 ans que c'était compliqué, mais cette troisième voie de l'auto-édition, mais 2.0 aussi, avec des nouveaux outils, des nouveaux partenaires aussi en train de s'ouvrir. Mais cette notion de l'édition, c'est un peu le Graal. Naïvement, oui, on peut le dire avec un sourire positif, c'est pas non plus péjoratif de dire naïvement, mais c'est un peu le schéma classique qu'on s'imagine. Mais en l'occurrence, votre livre, il est en train de vivre une vie incroyable. Il est tout aussi digne symboliquement dans la démarche que vous entamez à deux. Voilà, Marie, Julie, tu vois, ça devait arriver à un moment donné en télescope. Julie, je me permets de rebondir là-dessus parce que j'aime beaucoup cette philosophie d'aller et peut-être même de convaincre ou persuader dans une discussion. Bah, c'est peut-être intéressant pour ça, d'y aller. Donc, je te laisse encore rebondir là-dessus, si tu le souhaites.
Mais surtout, que ce soit édité, alors évidemment, si c'est Gallimard qui vous édite, la question ne se pose pas, mais dans toutes les petites maisons d'édition, le job, c'est quand même les auteurs qui doivent le faire.
Ouais.
Tout ce qui est communication, tout ce qui est... Enfin, tout le monde n'a pas un attaché de presse. Les primo-écrivants n'ont pas d'attaché de presse, nous, on a fait le travail d'aller déposer nos bouquins dans les librairies. On a fait le travail de rédiger et d'envoyer le communiqué de presse, de se constituer. Après, voilà, moi j'ai déjà eu une autre carrière, mais se constituer un petit fichier de presse à qui envoyer. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un qui déjà. Écrire le livre en soi, c'est une aventure, mais le commercialiser, déjà faire payer son livre. Voilà,
Bon, là, on fait un deuxième podcast sur ce qu'on met comme valeur sur les choses.
C'est compliqué aussi pour certains. Ouais. Donc, je comprends que ça fasse peur, en fait, l'auto-édition, parce qu'il y a ce côté, on n'est pas poussé. On doit faire le job, en fait. On doit faire plein de métiers, en plus que d'écrire. Et je pense que c'est ça aussi l'écriture maintenant. C'est pas de soi à soi, mais c'est qu'il faut vraiment le diffuser. Et donc, ne pas avoir peur de contacter la presse, d'être visible sur des réseaux sociaux.
D'être complètement acteur jusqu'au bout, quoi. Mais ce que j'aime, c'est que tu démystifies aussi le monde éditorial actuel. Oui, il y a Gallimard et voilà, le quartier latin à Paris, mais il y a tellement d'autres façons d'envisager l'édition aujourd'hui. Et ça démystifie un petit peu ça, parce que même des auteurs internationaux dans la francophonie ou ailleurs, ils sont acteurs, ils sont sur les réseaux, ils font tout le job que tu viens de dire. Donc c'est un point de vue très personnel, mais je trouve ça super audacieux. À nouveau, à l'instar de l'histoire, vous êtes ancré dans une contemporanéité, je trouve. C'est-à-dire que l'auto-édition, y aller, croire jusqu'au bout en son projet, c'est vertueux. Voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Oui, Théophile.
Je me permets de rebondir aussi par rapport à ces histoires d'auto-édition. En fait, dans le livre, bon, comme vous l'avez signalé, on vient des scènes slam, donc de l'oralité. Mmh. Et donc, à la fin du livre, il y a un QR code qu'on peut scanner et qui permet d'accéder à un espace audio sur Internet où un certain nombre des textes présents dans Renaissance sont lus par les auteurs. Et donc, voilà, il y a aussi cet aspect... do it yourself, mais fait maison, mais donc qui croise les médias. Donc on a un livre papier, mais aussi avec un aspect d'oralité, donc on peut entendre les mots.
C'est très intéressant, parce que effectivement tu viens de mentionner l'oralité, la poésie, j'oublie même le slam de zone, la poésie c'est déjà de la musique, c'est déjà de la mise en voix, d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont amatrices de poésie la lisent déjà pour elles-mêmes, etc. Le slam, c'est la scène ouverte, et donc peut-être que cet objet hybride permet, comme tu le dis, effectivement, d'ouvrir le champ des possibles dans le transmédia, qui est aussi quelque chose de vraiment terriblement 2021.
Ouais.
Et peut-être aussi amener finalement ceux qui sont touchés par vous, par l'objet livre, à venir vous voir, et aussi profiter de tout ce que vous allez offrir par la suite aux scènes qui sont ouvertes pour l'instant.
Mais on invite aussi les gens à écrire, hein, parce qu'à la fin, on a quand même aussi un espace justement où les gens peuvent nous faire un petit hashtag roman renaissance et nous partager leur nom. Mais les gens sont visiblement assez timides parce qu'on n'a pas de retour de poèmes d'amour, etc.
Ah bon, ben j'en ferai un juste pour vous. Je ferai un hashtag.
Je me réjouis, même un haïku, pas un truc très long. Mais voilà, c'est aussi une invitation à ce que les gens s'emparent du roman et mettent leurs propres mots aussi sur ce que c'est quoi pour eux l'amour finalement.
Ouais. Mais revenons à l'amour justement. Revenons là, je pose des questions, je me dis je profite de votre présence parce que c'est une démarche dans l'auto-édition que je trouve c'est un très bon exemple. Je trouve que c'est une success story, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas ça donne une image, on peut le faire bien, on peut profiter, avoir des retours, avoir des échanges dans la générosité. Donc l'amour est au cœur de cette histoire, on a commencé l'interview avec ça, c'est comment naît le sentiment amoureux dans un contexte totalement inédit, c'est l'amour au temps du Covid, hein. Et comment on capte ça? Il y a la matière, tu viens de le dire Théophile, vous avez puisé dans une matière, un matériau qui est déjà existant, mais comment on conscientise, on fait naître dans l'oreille, dans le cœur du lecteur, cette reconnexion au sentiment amoureux? Parce que moi je lis... Et je dis, oh, c'est vraiment ça. Et ça, moi, ça fait 9 ans, 10 ans que je suis mariée. Il y a des moments, c'est le quotidien, c'est la parentalité, c'est plein de choses. Et puis oui, il y a l'amour, mais cette naissance du sentiment amoureux, c'est super jubilatoire, c'est jouissif de retrouver ça. Comment on fait naître ça? Est-ce que c'est uniquement le matériau? Et c'est déjà super, parce que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi. Mais est-ce qu'on ajoute, est-ce qu'on conscientise ça aussi autour?
Je pense qu'il y a les deux, si je peux commencer, tu peux m'aider. C'est que vraiment, on était, et je trouve qu'on est peut-être encore un peu quand même dans les débuts de l'histoire, comme c'était tout frais au niveau du vécu, c'était plus facile d'aller poser des mots, de comprendre les mécanismes qui font que, et donc ça, c'était très important, parce qu'on, comme les personnages, à la quarantaine, on a vécu certaines choses, et parfois après une séparation, on se dit, est-ce qu'on va retrouver finalement ce grand amour qu'on a vécu avant, etc. Et de se rendre compte que quel que soit le contexte, quelle que soit l'histoire qu'on a eue et à une période un peu particulière, on peut retomber sur quelqu'un de qualité, ou en nous quelqu'un de qualité également. Et donc c'est un peu d'espoir qu'on peut, qu'on revit soi-même et qu'il est bon de donner aux autres aussi. Donc ça c'est d'une part, c'est basé sur la réalité d'un sentiment qui venait d'être vécu. Et en même temps, c'est beaucoup de dialogue, je pense, qui fait qu'on peut parler des choses, qu'on peut mettre des mots sur des sentiments. Ça, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui était très, très, très neuf. Avec le slam, j'aime bien les mots qui cognent, j'aime bien les mots un peu crus, j'aime bien les choses un peu plus rudes. Et là, devoir justement mettre des mots sur l'amour, c'était quelque chose de plus particulier et donc qui demande une vraie réflexion dans laquelle j'étais amplement aidée par Théophile.
Ah, voilà. Et ton côté, comment ça se passe alors pour te joindre à cette rédaction? Parce que la thématique de l'amour, a priori, c'est pas super in pour l'instant, mais c'est rafraîchissant, c'est vivifiant. Comment tu t'inscris là-dedans?
Et donc, comme tu l'as signalé, il y avait cette idée de mettre le doigt sur les tout premiers instants de la naissance du sentiment amoureux, particulièrement dans une période où tout concourait pour éviter la rencontre, pour éviter le toucher. C'était un peu, ça semblait anachronique. Et pourtant, les deux personnages vont faire ce pari qui va relativement bien marcher pour eux. Et en termes de création, outre le matériel qu'on avait au départ et qu'on a évidemment utilisé, il y a ces histoires de rythme. J'en ai déjà un peu parlé au début, à savoir que dans la naissance d'un sentiment amoureux, j'ai l'impression qu'il y a une distorsion du temps. C'est-à-dire que les deux personnages vont passer évidemment beaucoup de temps, mais le temps passe vite quand on est amoureux, quand on aime un livre. Le temps, on ne le perçoit pas de la même façon. Et on a essayé, peut-être avec un relatif succès, au début d'insuffler ça aussi, d'avoir le temps qui est un peu chamboulé en fait, par rapport au temps suspendu du Covid. On a l'impression que les deux personnages finalement sont dans des bulles temporelles et qui les englobent, qui est un peu des cocons.
Ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, c'est que tu évoques, en tout cas je le reçois comme ça, cette idée d'une troisième dimension qui s'est ouverte, quoi, avec ces moi qui flottaient, voilà, cette bulle particulière. Et je me dis, cette troisième dimension, je pense qu'à mon avis, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir vécu comme telle. Je suis certaine que vous n'êtes pas les seuls amoureux du Covid.
J'espère que non.
Mais c'est
marrant parce que tu disais juste avant que la thématique de l'amour, c'est pas très in. Mm-hmm. Eh bien, moi, j'ai l'impression, au contraire, par tous les échanges que j'ai, par tous les gens qui ne vont pas spécialement bien, qui viennent me trouver dans mon institut, donc dans mon autre profession, je pense que les gens ont terriblement besoin de tendresse pour le moment.
Voilà.
Je trouve que les gens sont broyés par leur monde professionnel, par l'agressivité des gens et l'agressivité du rythme qu'on s'impose, les travaux,
l'anxiété, tout.
Et je pense que les gens, pour le moment, ont vraiment ce besoin d'être... comme dans une bulle, voilà, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de douceur et de temps qui est mis sur pause, en fait.
Ouais.
Et contrairement à ce que la société pourrait laisser paraître, je crois que les gens ont besoin d'amour, en fait. Ça ne fait pas très girl power de dire ça, mais je crois qu'en fait, les gens ont quand même besoin d'amour.
Il faut rester authentique, et je te rejoins, quand je dis que ce n'est pas très in, en fait, je me rends compte, je me cale sur... ce truc du monde d'avant, avant pandémie, tous les codes ont explosé, tu le dis dans le travail, tout a changé, tout a été secoué, c'est un tremblement de terre. Et effectivement, c'est quelque chose que je partage aussi dans ce qui se passe de mon côté, dans l'activité professionnelle, amicale aussi, le besoin de douceur, le besoin d'être enveloppé, et en fait, dans ce chaos, d'aller chercher des petites îles flottantes et d'aller un petit peu reprendre son masque à oxygène et partir. En l'occurrence, on ouvre le livre, c'est vraiment ça qui se passe, quoi. On se replonge dans quelque chose où on sent qu'on respire, on se laisse flotter, naviguer, on est secoué parfois aussi. Et je pense que c'est vraiment pour le côté bibliothérapeute ici, et voilà, faire du bien, amener un état de mieux-être chez les gens, c'est vraiment un livre qu'on peut conseiller. Justement aussi pour se reconnecter aux sentiments amoureux, quelqu'un qui perdrait espoir, quelqu'un qui serait dans un état actuel où la solitude, le manque de toucher, etc. est présent... c'est le pouvoir des mots, et vous êtes vraiment très talentueux. Je ne sais pas qui je suis pour le dire, mais c'est mon point de vue personnel. Vous êtes vraiment très talentueux tous les deux pour amener tout ce qui est sensoriel. Il y a l'intellectuel, il y a même, j'évoque, je reprends vos termes, le sapiosexuel, mais il y a aussi les sensations, tout est parti, quoi. Donc c'est un vrai travail d'orfèvre, hyper qualitatif que vous faites. J'imagine une personne qui est encore confinée, ou même une personne qui traverse encore une solitude maintenant, ça ne peut que lui donner envie d'y croire à nouveau. Et puis de vivre aussi par procuration, c'est ça aussi la lecture. C'est vivre les histoires des autres, voyager. Je pense que vous avez vraiment réussi ce pari-là dans une thématique, je ne l'ai pas encore découverte, fraîchement post-Covid, je ne l'ai pas encore découverte, quoi. Est-ce que, je vais être audacieuse, est-ce que vous éprouvez une forme de fierté d'avoir écrit, d'avoir offert ça à d'autres, Théophile ? C'est un peu difficile de parler de fierté, mais je pose la question quand même.
Non, fierté, je pense pas. Je suis éminemment content que ça intéresse, que c'est une forme d'intérêt pour des lecteurs et des lectrices. Mais fierté, non.
Moi, je réponds oui.
Je vois le jeu du mot verbal qui se passe et je sens qu'il y a deux réponses.
Ah oui, il y a deux salles, deux ambiances, effectivement.
Mais c'est intéressant de voir ça aussi au sein du couple d'auteurs.
Moi, je suis une enthousiaste née, donc tout me fait du bien, tout est cadeau.
Mais je suis aussi enthousiaste, bien que je n'en ai pas l'air. Mais c'est le mot fierté.
Je crois que c'est le mot qu'on projette dessus.
Ah ben non, moi, je suis hyper fière, justement, d'avoir réussi à... écrire un pavé, parce qu'on peut le dire, c'est quand même un beau volume, sans être disputé une seule fois,
et que
ça trouve un écho positif dans le chef des lecteurs qui nous ont fait le grand cadeau d'acheter le livre. Moi je suis super fière, et je le suis pour deux, donc
C'est ça, en fait c'est communicatif, ça nourrit. Mais du coup, Théophile, je reviens vers toi, quel est le qualificatif que tu voudrais employer, parce que je trouve ça important que chacun puisse se définir avec ses propres mots. Qu'est-ce que tu apposerais alors, comment tu substituerais ce terme de fierté, quel est le sentiment qui te traverse?
C'est plus heureux, en fait. Heureux de me dire, tiens, y a des gens qui nous ont fait confiance, qui vont passer plusieurs heures, voire plusieurs jours de leur vie à découvrir notre univers et se dire, tiens, c'est pas mal ce qu'ils ont écrit là, c'est assez intéressant. Et donc le fait qu'il y ait une résonance, une connexion possible comme ça, même si elle n'arrive que sur une dizaine de pages, hein, ça je suis heureux de ça. Je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Mais c'est une rencontre, hein. On parlait d'amour tout à l'heure, c'est un peu ça, hein, quand les deux personnages au début se connectent, c'est les premiers, c'est les prémices. Hein, donc oui, je dirais plutôt heureux plutôt que fier.
Voilà, bah, écoute, moi je prends tout parce que voilà, c'est intéressant, c'est pour ça que je fais venir des personnes au micro. Comment vous vivez et exprimez tout ça? J'entends pavé et je me dis oui, pavé c'est chouette et ça peut faire peur en même temps, surtout que les formats courts sont vraiment revenus vraiment à l'ordre du jour. Déjà avant le Covid, avec tout ce qui est surmenage, fatigue, burn-out, etc. Mais le Covid a encore un petit peu appuyé ça. Donc c'est aussi un choix audacieux. Et en même temps, je trouve qu'il est très bien structuré. Parce que bon, en coaching, c'est des choses aussi où on parle beaucoup, la structure, même la rythmique, les ruptures au sein d'un objet littéraire. Il est comme bien découpé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs actes dans cette histoire, j'ai l'impression. Et de toute façon, c'est aussi roman poétique, donc il y a quand même l'idée de recueil. On peut aussi aller un peu piocher au sein des slams, au sein des poèmes. Donc j'ai l'impression que c'est l'objet hybride en plein. Moi je le dévorerai vraiment très rapidement pour la première partie. Et puis en donné, je suis prise dans d'autres choses, comme plein de gens. Mais j'y reviens et je rentre dedans encore plus facilement. Donc c'est un pavé, mais j'ai l'impression qu'on peut en sortir, y revenir, cueillir deux, trois choses à gauche et à droite comme ça. Et néanmoins garder le sens et l'essence du livre. Est-ce que vous le voyez aussi comme ça?
Oui, mais comme je le disais au début, c'est deux livres en un. Et il y a effectivement à la fin une table des matières avec la liste des textes.
Voilà, oui.
Je crois qu'il y en a 69. Petit clin d'œil à Carole Logiste et à son dernier ouvrage, 69 selfies. Mais oui, il y a des textes. Et donc voilà, on les lit. Tiens, il y en a un. Ah, Matthieu 6:22. Tiens, ça m'intéresse. Page 155, puis on peut y aller, on lit ça à 5 minutes ou 2 minutes, et donc on peut picorer.
Donc quelqu'un qui dirait, ouais, le gros pavé, c'est pas pour moi, je pense qu'on peut aussi lui envoyer ce signal-là, vous êtes bien d'accord, allez-y, on peut vraiment aller chercher simplement le poème, le slam, qui va faire du bien, qui va titiller, qui va engager plus dans une discussion intellectuelle.
Tout à fait.
Je trouve ça génial, c'est-à-dire que pour être une grande amatrice de poésie, le bonheur suprême, c'est d'aller voir justement cette table des matières. Et en fonction simplement de l'évocation du titre, du sentiment, de la sensation dans laquelle on est à ce moment-là, d'aller chercher ce qui va faire écho. Et là, c'est encore le côté bibliothérapie, mais la résonance qui se crée entre le livre et soi. Donc, vous faites deux cadeaux à vos lecteurs, en fait. Vous êtes d'une grande générosité.
On est deux.
Voilà. C'est pour ça. Je reviens aussi sur le côté travail à deux. Je ressens, mais ça c'est très subjectif, c'est moi, je ressens une grande complémentarité. Je ne vais pas donner des qualificatifs parce que je vais peut-être me tromper, je vais vous laisser vraiment vous décrire vous-même, mais je sens une grande complémentarité dans l'histoire entre Marie et Christ ou Tristan. Et puis là, je vous entends et je vous vois en vrai, dans la vraie vie, et je sens aussi une forme de complémentarité. On pourrait dire opposition, différence, moi j'y vois une forme de complémentarité. Vous l'avez ressenti dans l'écriture?
Oui. Oui, je pense qu'on est très complémentaires, en fait.
Oui, je pense. Ouais.
Je pense que là où certains sont plus dans la cérébralité, voilà, moi j'ai peut-être un peu plus dans l'impulsivité.
Ouais.
Et voilà, je pense que j'arrive à donner de l'énergie à Théophile et que lui me tempère pas mal. mais oui, on se complète bien. Est-ce que je peux juste revenir en arrière sur ce que tu évoquais sur la taille du roman? Ça, c'est une des raisons pour laquelle je suis assez fière, c'est qu'on ait quand même fait quelque chose d'assez volumineux. Mais effectivement, ça peut faire super peur, en fait, au début. Et quand je dis que je suis fière d'avoir été au bout de ce projet-là, c'est parce que quand c'est un premier roman en plus, on se dit, mais j'arriverai jamais à arriver à 60 000, à 50 000 mots,
oui,
à 60 000 mots, etc.
On compte au début, est-ce qu'on est légitime?
Exactement, mais oui, parce qu'on se dit, ouh, là je fais 35 000, en fait j'ai une nouvelle, quoi. J'ai pas un roman, et donc on n'ose pas se dire romancier, on n'ose pas se dire auteur,
tout à fait.
Etc.
C'est tellement vrai ce que tu as
dit. Et donc, voilà, mon précédent c'était un bouclet qui faisait 10 poèmes, c'était 40 pages, donc voilà, il y a de la marge de progression aussi pour. Enfin voilà, pour peu qu'on justifie la qualité à la quantité.
Ouais, aussi. Ouais.
Mais effectivement, je comprends quand on commence, mmh. on se dit est-ce que ça va tenir la route sur l'épaisseur, au propre mot
figuré. C'est super vrai, et je trouve que c'est vraiment authentique, et t'es dans une grande transparence. Qui n'est pas en train de compter ses mots et son nombre de pages? Peut-être pas tout le monde, c'est quelque chose qui me parle, je l'ai identifié au sein de Plume que je coach aussi. Pourquoi la légitimité devrait venir aussi de ce comptage? Et en même temps, on le fait.
Parce qu'il y a des normes, non? Je pense qu'un roman, c'est entre X et X mots.
250 000, 350 000 signes, voilà. Mais bon, tout explose maintenant, donc Théophile.
Non, oui, mais pour rebondir, oui, même dans le moindre concours, il y a des limitations de mots ou de caractères qui sont imposées. Mm-hmm. Au niveau complémentarité, je voulais dire qu'effectivement, sur l'écriture en tant que telle, moi, j'ai une façon d'écrire... on va pas détailler ici, mais je vois bien... Quand j'écris mes poèmes, j'ai une inclination à écrire plutôt des formes très structurées, mm-hmm. avec des rythmes, des sonnets. Enfin, voilà,
on retrouve effectivement.
Et Julie est plutôt dans des trucs très très libres. Donc évidemment, c'est...
Des poèmes libres, intuitifs du coup.
Mais ça m'apprend, hein, depuis que j'ai rencontré Julie, j'écris un peu différemment. J'explore certaines formes que jamais j'aurais osé avant. Et puis, donc, mm-hmm. ça, c'est bien aussi, en fait.
Mais moi, je compte les pieds. Je dis, c'est pas 12, ok, ça va. Sinon, je change un mot pour que ça tombe, que la rythmique soit bien respectée.
Un jour, tu ne compteras plus, ça, naturellement, tu sauras.
Il y a deux choses qui me viennent quand je vous entends, c'est qu'en fait, et encore plus dans ce contexte qui commence vraiment à être dans une transformation dingue à tous les égards dans le monde, les codes explosent, quoi, à tout niveau. Donc, est-ce qu'on n'entre pas dans la brèche pour se dire la liberté, on la prend? Et deuxième chose, je me dis, je sens une forme d'imprégnation l'un de l'autre. Et là, peut-être que je vais vous faire rougir, mais j'entends les correspondances de Sand et Musset, Anaïs Nin, Henri Miller, évidemment, qui se transforment. Je me dis, je vais le dire, hein, quand même. Moi, ça m'est venu assez rapidement. Il y a quelque chose qui, dans l'auteur, dans la vie de l'auteur, dans le style d'écriture, enfin, qui est l'auteur, ça va vraiment jouer et influer sur l'écriture et le cours de la vie de l'autre personne. De ce que j'ai reçu de votre histoire, mais par un filtre qui est celui de l'autofiction, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette imprégnation l'un de l'autre dans tous les domaines, que ce soit l'écriture, le slam, encore autre chose. Mais c'est du ressenti, mais je le perçois vraiment comme ça. Et du coup, je pense que ce format épistolaire, il vous correspond vraiment bien. C'était peut-être les crains dans lesquels on allait pouvoir accueillir votre premier entrepreneuriat littéraire. Et je trouve ça beau, parce que ce soit amoureux, amical, qu'on ait des âmes sœurs vraiment sensuelles, sexuelles, on a aussi des âmes sœurs créatives et littéraires. Alors si tout est combiné, je vous le souhaite. Mais en tout cas, c'est vraiment à ça que je me suis raccrochée aussi durant l'écriture. Et c'est beau, et je vous souhaite de le recevoir, ce message que je vous envoie,
merci.
Ou de réagir si vous n'êtes pas d'accord.
Moi, je suis juste les planètes, je lui dis souvent, les astres sont alignés. Ouais. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir rencontré... quelqu'un qui me permet d'être moi complètement, mm-hmm. Sans jugement, avec énormément de patience. donc c'est très très agréable. Et par sur le côté sapiosexuel que tu évoquais tout à l'heure, c'est que c'est super stimulant d'être avec quelqu'un qui nous stimule, en fait.
J'imagine.
Donc ça, c'est vraiment très très gai, très très gai à vivre. Mm-hmm. Et tant mieux si ça se ressent dans l'écriture.
En tout cas, pour ma part, oui, je soupçonne que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Théophile, tu sens que l'écriture de Julie a aussi imprégné la tienne, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure.
Oui, tout à fait, oui. Au niveau des poèmes que j'écris, maintenant je tente des formats plus libres, voire en prose, chose que je ne faisais pas avant. Puis elle me fait prendre confiance aussi, hein, dans ma capacité à écrire des formats plus longs. Donc, mm-hmm. Oui, c'est très stimulant, oui.
C'est un mot que j'aime entendre déjà de base, dans la vie, dans tout, mais de l'entendre aussi dans vos bouches, stimulant, quoi. avec tout, voilà, cette histoire d'amour qui vient sur le tard, cette écriture peut-être qui vient sur le tard. Et en fait, moi, j'entends une joie de vivre, une envie de mordre dans tout ce qu'on aime, cette passion. Donc, stimulant, c'est un mot que je vais attraper. Je vais le déposer ici, dans cette pièce. Dans
et liberté aussi.
Liberté.
Liberté d'être soi, d'écrire ce qu'on veut, finalement. Et ce qui est bien avec cette auto-édition, c'est qu'on a quand même fait le job de l'envoyer à des maisons d'édition, etc., avoir des refus motivés ou
pas. C'est un apprentissage
ou pas. Mais c'est cette possibilité de se dire, en fait, je ne vais pas laisser 20 éditeurs à Paris, à Bruxelles, etc., décider si je peux ou pas délivrer mon message aux autres.
En fait.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est génial à l'époque dans laquelle on évolue, c'est de pouvoir se dire, mais ok, le schéma classique, ça ne fonctionne pas, j'ai quand même la possibilité de pouvoir délivrer mon message aux gens parce que j'estime qu'il a de la valeur et que j'ai bossé dessus quand même. Et donc ça, c'est un conseil que je donnerais à tous les gens qui se font recaler pour une raison pour une autre, du circuit classique des maisons d'édition, c'est d'oser l'auto-édition.
Franchement.
Bien sûr, il y a quand même l'investissement de départ, mais voilà, on n'est pas obligé de commander 300 bouquins d'un coup, on peut le faire
aussi. Et tu parles d'investissement, c'est que ça prouve aussi la foi dans laquelle on s'inscrit, quoi. C'est qu'on y croit. Investir dans un projet, on y croit, on n'a pas le choix. Comme tu disais, il y a des objectifs, il y a quelqu'un à côté, on y croit. Oui, et liberté, ça ouvre beaucoup de choses, une fois qu'on s'autorise cette image. Liberté aussi dans l'écriture. Bon, heureusement, dans une époque hyper ouverte à plein de choses, mais vous êtes aussi dans une écriture qui convoque tellement de thématiques, que ce soit la sexualité, que ce soit l'érotisme, et encore, on pourrait juste s'arrêter là, mais il y a d'autres choses. Vous avez aussi cet échange intellectuel très vivant, très stimulant pour le coup, voilà, dans les échanges de vos personnages. Mais ça parle de tout, ça parle d'éco-anxiété, ça parle d'engagement, de militantisme. Il y a des choses, vous n'êtes pas qu'à parler de vous, et les personnages ne sont pas qu'à parler d'eux, de leur histoire d'amour, dans un côté un peu nombriliste, égotiste. Donc il y a une liberté aussi dans ces thématiques. Est-ce que ce serait passé de la même façon qu'un éditeur? Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est érotique, c'est piquant, c'est... pour moi, il n'y a aucune autocensure, on le sent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très empowerant, j'imagine, de ne se mettre aucune censure. Est-ce que ce serait passé tel quel, ou alors avec plusieurs filtres, à votre avis, avec une maison d'édition?
Probablement pas. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de devoir faire ce travail, mais j'imagine qu'il y a effectivement des thématiques, des textes, des poèmes qui auraient été recalés. Et ça, en y réfléchissant, ça m'ennuie un peu. Donc, on a vraiment poussé le côté un peu. Voilà, on assume tout. Il y a des choses qui sont un peu moins consensuelles. Il y a des choses qui sont un peu sales. Il y a des choses un peu. Ben voilà, c'est deux personnages et. Si on, voilà, ça reste de la fiction et on peut s'octroyer ça dans le respect, bien évidemment. Mais voilà. Et donc, avec des maisons d'édition, c'est vrai que ça aurait été sans doute un peu compliqué.
Après, il y a un travail de réécriture qui est normal.
Bien sûr.
Voilà, si notre bouquin avait passé les premiers stades et qu'on nous avait dit « Oui, ok, vous devez quand même réécrire. Je ne sais pas ce qu'on nous aurait donné comme consigne, mais je ne sais pas, écrivez ça. Mettez un troisième personnage ou mettez pas d'Eros. Voilà, peut-être qu'on aurait... abdiquer quelque part et qu'on se serait dit bon bah, ma foi on peut faire cette concession là
pour le Saint Graal du
voilà. Et bien là nous avons eu la grande chance d'être complètement libres et d'assumer jusqu'au bout chacun des passages qui sont dedans, donc ça c'est super gay, c'est vraiment
j'imagine super gay. Et puis bon, c'est ça aussi je pense qui fait du bien à votre récit, c'est que le lecteur il le reçoit aussi tel quel, quoi, avec le sale, avec l'engagé, avec le vrai. C'est aussi une histoire d'amour vraie. On est dans une époque où on veut faire tomber les masques, c'est un sage jeu de mots, mais vraiment, quoi. Donc on a besoin de se cogner au vrai comme ça. C'est super intéressant, même dans la façon dont vous présentez cet objet, je trouve. En tout cas, je suis heureuse d'avoir reçu en les mains, personnellement. Ça bouscule, ça fait du bien. J'ai deux, trois dernières petites questions. C'est vraiment ici, dans ce podcast, c'est aussi l'idée d'être dans une grande générosité, dans un partage d'expérience pour des plumes qui écoutent ou qui souhaitent y aller. Est-ce qu'il y a un conseil, tu en as déjà donné un déjà tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un conseil vraiment ultime, dans, vu qu'on a beaucoup parlé d'édition aussi autour de cette merveilleuse histoire, un conseil dans cette démarche de vouloir écrire un livre qui arrive dans les mains des autres? Quel conseil on donne à ces plumes-là?
Tu te lances, je me lance.
Vas-y.
Mais d'abord, de manière un peu égoïste, c'est qu'est-ce qui m'anime ?
Ouais.
Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me fait lever le matin ? Ou qu'est-ce qui me retourne le ventre ? Ou qu'est-ce qui me sidère ? Voilà, il faut que ça parte d'un sentiment fort qui nous habite, j'ai l'impression, pour avoir assez de matière et assez de flux tendu pour pouvoir continuer sur la longueur. Donc, est-ce que ça me parle à moi ? Si déjà ça ne me parle pas à moi, ça risque pas de parler à beaucoup de monde.
Indéniablement.
Mais voilà, est-ce que ça me parle ? Et quel est le message et à qui est-ce que ça peut parler ? Donc ça, c'est peut-être un premier conseil, c'est d'avoir vraiment un moteur essentiel dans la thématique centrale de l'objet. Et puis, est-ce que je suis prêt à consacrer du temps, de l'engagement, de l'énergie, des moyens aussi, parce qu'on s'est octroyé des résidences d'écriture. On a eu la chance de pouvoir aller la faire en partie à la Maison de la Poésie d'Amay. Et donc, ça, c'était génial. Mais on s'est offert aussi des congés et des moments, tout simplement, pour avoir le temps de se dire, allez, on a 3 jours ou même 2 jours ou 48 heures, on ne fait que ça.
On y va.
Voilà, il y en a peut-être que ça passera par je me fais aider par un coach, et là ça passera peut-être par j'achète 50, enfin non pas 50, mais j'achète donc 20 bouquins qui parlent de cette thématique-là.
Exactement.
Pour voir comment ça a été traité déjà, soit pour s'en inspirer, soit pour au contraire s'en détacher complètement et proposer quelque chose de neuf.
Faire son petit shaker personnel.
Exactement, ça peut être un conseil aussi que je pourrais donner, par exemple.
Super. Et toi, Théophile, comment tu envisages le conseil que tu pourrais donner à des plumes qui hésitent ? Il y en a plein qui hésitent, je le sais. Je reçois les messages.
Attends, pendant qu'il réfléchit, moi j'ai encore un autre conseil.
Ouais. J'adore.
C'est n'en parler qu'à des personnes bienveillantes.
Oui.
Alors ça, c'est vraiment le truc. J'ai la grande chance d'être entourée de personnes extrêmement bienveillantes.
Ouais, c'est un bon conseil.
Mais parfois, il y a des gens qui, parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'audace, parce qu'ils ne sont pas lecteurs, etc., vont vous décourager, ne fût-ce que par un regard en diagonale. Quoi. Même pas avec les mots, mais dans l'attitude, on va sentir que le projet n'est pas bien accueilli. Ouf, comment est-ce que toi, écrire pour raconter.
Et si c'est embryonnaire, ça coupe le truc.
Voilà. Et donc, n'en parler vraiment, et même dans les personnes à qui on va le dire, être précisé, voilà, je t'en fais part. Ouais. Mais je suis pas en mesure d'entendre que ça va pas te plaire. Donc,
il y a le côté confidentiel, secret aussi.
Oui.
Tout ce qui est important, on dévoile pas tout de suite. Je fais des analogies débiles parfois, mais je me dis, ton bébé, t'es enceinte, c'est important, tu le dévoiles pas dans les 2 jours à n'importe qui, n'importe comment, ou pas. Chacun fait ce qu'il souhaite, mais je veux dire, il y a ce côté un peu, on chérit encore un peu le secret aussi pour aussi donner un maximum de vie après. Théophile, je reviens vers toi sur envie de 2 conseils. Je me dis, j'ai 2 auteurs, j'en profite. Est-ce que, et s'il n'y a pas d'autre chose, si c'est compliqué.
Mais est-ce que tu peux répéter la question parce que ça fait longtemps
Oui, bien
qu'elle
sûr, excusez-moi. Avec 2 prolixes, c'est compliqué. Je me demandais, est-ce que tu as un conseil à donner à une plume qui s'engage dans un travail d'écriture avec en plus cette volonté qu'il arrive dans les mains d'autres personnes ? Pour oser y aller, simplement. Pour y croire.
De ne pas avoir exclusivement la finalité d'un écrit, d'un roman, mais cultiver aussi à l'opposé, à l'inverse, à l'autre bout, la sincérité et la vérité du signal qu'on va chercher en soi.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est... Parce que souvent, et c'est bien, ça fait partie aussi de l'effort, Et bien malgré nous, des fois, on a tendance à être des copistes, donc des imitateurs. On a tous une singularité. Et d'aller chercher cette singularité de la manière la plus précise possible, pour moi, c'est finalement c'est le plus important en fait.
Écoute, moi ça m'émeut beaucoup parce que c'est l'ADN du mot qui délivre. C'est le premier message que j'envoie aux personnes qui viennent chez moi. Je dis, je ne vais pas vous aider à éditer un livre, je ne vous promets pas qu'il va être édité, mais c'est vraiment ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Donc c'est vous qui m'envoyez un peu d'émotion là, pour le coup. Merci Théophile de venir apposer ça au reste. Donc ma question, c'est un peu la question gimmick qui revient à la fin du podcast, mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on parle de livre et d'écriture, mais le mot est tellement singulier et porteur de pouvoir, une sémantique très forte. Est-ce que, Julie, pour toi, il y a un mot ou des mots, tu les entends, tu les prononces, tu les lis, est-ce qu'il y a des mots qui te délivrent ?
Ah, quel mot me délivre? Ce serait un peu bateau de dire liberté. Donc je dirais confiance.
Mmh. Ouais, confiance. Comprends. Et on l'envoie à tout le monde. Merci. Mmh. Et toi, Théophile, il y a des mots ou un mot très fort, porté d'un sens profond pour toi?
Sérendipité.
Mmh, on prend terriblement ici. Ouais. Merveilleux. Mais on va terminer là-dessus. Un merci, mais sincère, d'avoir fait la démarche de partager avec beaucoup d'ouverture et de transparence votre expérience et votre talent à toutes les plumes qui nous écoutent. Merci beaucoup.
Grand merci à toi et à vous.
Merci à toi.
À bientôt pour les prochains livres qu'on pourra lire peut-être.
bientôt.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.